C'est 23.
Un condensé des meilleurs moments de Debout les comiques en format balado. Debout les comiques, juste le meilleur. Debout les comiques. 96.9. C'est quoi?
Quoi, c'est hier qu'on a appris que la victime d'Harold Lebel était l'ex-députée péquiste et actuelle mairesse de l'Orgueil, Catherine Fournier. Et on jase de ce dossier-là avec l'avocat criminaliste Walid Hijazi. Allô, allô, Walid.
Bon matin.
Salut,
bon
c'est son vrai nom? Sais-tu votre vrai nom?
Oui. Okay,
oui.
Oui,
c'est son vrai nom. Ça fait
bonjour,
rigolo.
Madame. C'est Madame Thérèse.
Non, oui, Madame Thérèse, on te la présente.
Enchantée, Madame Thérèse.
Walid, donc Catherine Fournier qui a demandé à ce que son identité soit connue le 25 janvier dernier. On était le 18 avril hier. Pourquoi est-ce que ça a été si long avant qu'elle puisse elle-même révéler son identité?
Ben, au départ, il y a une ordonnance de la Cour. C'est le juge qui dit ordonnance de non-publication. Indépendamment de cette cause-là, dans toutes les causes en matière criminelle, en violence conjugale ou en matière sexuelle, c'est systématique qu'il y a une ordonnance de non-publication. On ne peut pas identifier le ou la plaignante.
Quand il y a des enfants aussi d'impliquer, c'est automatique aussi.
Alors, on veut protéger leur dignité, leur vie privée. On veut pas étaler leur vie sexuelle sur la place publique. Mmh. Un procès, c'est public. Tout le monde a le droit de rentrer dans une salle de cour. Il faut que la population puisse savoir que la justice a bien été rendue. Alors, à défaut, c'est public. Mais dans les causes sexuelles ou conjugales, on protège l'identité pour encourager les dénonciations, pour se sentir à l'aise de venir à la cour témoigner, etc.
Mais si elle-même, elle veut donner son identité,
oui.
Pourquoi elle n'est pas maître de ses décisions? Est-ce que c'est pas plus fort que la décision du juge?
Ben, au départ, je pense que c'était dans son intérêt, elle le souhaitait. Elle n'avait pas le projet de que ce soit public plus tard. Et là, les choses ont évolué, puis il y a eu la participation. Alors, pourquoi la date d'hier? C'est que ça coïncide avec la sortie d'un documentaire. Mm-hmm. Alors, j'imagine qu'elle a voulu que ça...
Il y avait une stratégie.
Que ça sort en même temps.
On dit que l'agresseur s'est pas opposé à la requête de Catherine Fournier, mais il aurait pu... Puis pourquoi? Ouais. Vous savez, est-ce que ça...
Il aurait pu refuser, pour vrai?
On lui donne un droit de parole. C'est un processus adversarial. Il y a deux parties. Alors, le juge veut être équitable. Il donne un droit de parole. Vous, partie opposée, qu'est-ce que vous en pensez? Évidemment, l'avocat et M. Lebel ne se sont pas objectés. Mm-hmm. Je vois pas qu'est-ce qu'ils auraient pu articuler. Lui, son identité était publique. C'est son procès, c'était public. C'est au-delà de lui, là. Mais par courtoisie, on donne un droit de parole à l'autre partie, c'est sûr.
Je suis quand même curieux, comme il y avait un documentaire, Walid, sur le processus de Catherine Fournier qui se tournait en parallèle, est-ce que le juge aurait pu avoir peur de l'utilisation des images? Parce que je présume qu'il y a eu des images de la cour qui ont été tournées.
Oui, mais ça, c'est très limité. Ça, c'était au palais de justice de
Rimouski.
Ouais. Alors, je connais pas la configuration des lieux. Si je me transpose ici au palais de justice de Montréal, les caméramans ne peuvent pas se promener partout. C'est pas filmé en salle de cour. C'est pas comme aux États-Unis.
C'est pas en cour, OK.
Alors, c'est pas dans la salle de cour.
On n'aura pas d'image du procès. C'est impossible.
En tant que tel, non. Il n'y a pas ça ici au Canada.
OK.
Et même dans les corridors, il y a des endroits désignés où les caméramans peuvent se tenir. Peuvent pas se promener là dans le palais de justice.
OK. Mais ça me fait penser à une sous-question. Est-ce qu'on pourrait voir ça arriver à un moment donné au Canada? Parce que là, on se rappelle les procès spectacles aux États-Unis.
Oui.
Johnny Depp, Amber Heard.
Oui.
Ça fait jaser. Il y a des caméras.
Ouais. Ça serait intéressant. C'est un gros débat. C'est pas une question qui est simple. On veut pas une justice spectacle. Mais d'un autre côté, on voit que la population, il y a un aspect d'accès à la justice, de voir ce qui se passe dans une salle de cour.
Ouais.
Les procès spectacles qui n'ont pas viré au délire non plus. C'était civilisé. Bon, alors, c'est un enjeu spécial. Il n'y a pas, mais au Canada, on voit pas ça.
Walid, on te garde avec nous. On va aller en chanson tout de suite. On a encore quelques questions pour toi concernant cette affaire-là. Entre autres, un rebondissement de Catherine Fournier qui a dévoilé son identité hier.
Ouais.
En fait, son identité qui a été révélée.
Des comiques, de retour après ceci. Debout les comiques.
96.9, c'est quoi?
Le podcast Debout les comiques.
On parle du dossier de Catherine Fournier qui s'est révélée hier être la victime d'Harold Lebel, procès hautement médiatisé. Et on est avec Maître Walid Hijazi ce matin pour démêler quelques questions qu'on a pour lui.
Walid, dans une lettre ouverte dans Le Devoir ce matin, Catherine Fournier va écrire que ce qu'il avait incité à porter plainte, ce qu'il avait permis de décider de porter plainte, c'était la garantie d'anonymat.
Oui.
Son nom donc devait pas sortir grâce à une ordonnance de non-publication. Exactement. Et pourtant, même une heure après l'arrestation, déjà il y avait des rumeurs que c'était elle la victime. Pire que ça, il y a un chroniqueur qui avait sorti son nom en direct à la télé à heure de grande écoute.
Oui.
Qu'est-ce qui marche pas avec les ordonnances de non-publication?
Non, mais ça marche. Ça, je pense
en
que
général,
c'est...
ça marche.
Oui, et ça, c'est le seul cas, en fait, où je vois qu'il y a une problématique avec une ordonnance de non-publication. D'habitude, c'est béton. Souvent, dans des causes médiatiques, sous ordonnance de non-publication, les médias viennent essayer de faire lever un avocat d'un média, des médias va venir férocement essayer de faire lever l'ordonnance. Ici, il y a une erreur humaine, malheureusement, je pense que c'est rien de plus que ça là. Et comme tu as dit au départ, c'est ce qui l'a incité à témoigner, c'est ce que je disais au début du micro, c'est un incitatif pour être le plus à l'aise possible pour venir témoigner dans ce qui serait autrement très difficile à une cause criminelle.
Hautement exposé.
Est-ce que les peines contre les contrevenants devraient être exemplaires? Ceux qui disent le non,
ceux qui respectent pas le nom,
là, qui a dit le non, ils devraient pas avoir une conséquence.
En principe, c'est une bonne question, Madame Thérèse, parce que je comprends l'idée de discipline derrière votre question. il pourrait y avoir un outrage au tribunal.
Merci, vous êtes très poli, hein.
Ben oui.
J'ai beaucoup de respect pour les autres, ça c'est beau ça.
Catherine Fournier s'est dit quand même étonnée que le procès de son agresseur se soit tenu devant jury à Rimouski, la région où il vit, il travaille depuis longtemps, il y avait même des supporters dans la salle. Donc pourquoi on a choisi d'aller devant jury et pas seulement juste un juge?
C'est une bonne question, puis là on spécule, on n'est pas dans le secret des dieux, c'est ultimement un conseil de son avocat, puis il est extrêmement bien représenté, son avocat est un excellent avocat. Peut-être que c'était, on se disait, c'est une question de crédibilité, il bénéficie d'une très bonne crédibilité dans sa communauté, personne n'était là, alors c'est la parole de l'un contre de l'autre, il était présumé innocent au départ. Alors peut-être, indépendamment de cette cause-là, si on va devant jury, c'est souvent parce qu'on pense qu'on peut aller en chercher un ou deux sur la crédibilité, justement.
Mais justement, dans des procès comme ça, est-ce que la victime aurait pas pu dire « j'aimerais ça être jugée ailleurs ». Tu comprends-tu que le procès se tienne ailleurs pour que la personne en face de qui je débat, mettons, soit pas avantagée, qu'il n'y ait pas l'avantage du terrain de jouer local, mettons. Là.
Ça, c'est une super bonne question. C'est une question très délicate.
Ça s'est déjà vu, là, des procès qui ont été tenus.
Mais à la demande de l'accusé. C'est-à-dire, moi, accusé, ma cause, elle est tellement médiatisée dans ma communauté. Okay. J'ai tellement été ostracisé à l'avance que je pense pas que je peux avoir un jury neutre et impartial qui sera capable de faire abstraction de toute l'opprobre populaire et me juger de façon impartial à la demande de la
victime.
J'ai jamais vu ça. Le procès se tient là où l'incident, l'événement est arrivé.
Puis c'est le procès, le procès de l'accusé aussi. Là. Ben, c'est son procès à lui.
Walid, sur la messagerie texte, depuis qu'on parle de ce sujet-là, il y a Sébastien Côté et Benoît Simard qui parlent les deux de la sentence. Mm-hmm. Les deux disent, je pense que la sentence est trop faible, la sentence est bonbon. Ouais. Pourquoi?
Ben, je sais pas s'il a fait une journée de prison, là, mais c'était de la prison. Là. C'est-à-dire, c'était pas une peine bonbon, dans le sens qu'il a été incarcéré pendant un bon moment. Après ça, l'idée derrière, à n'importe quelle peine, c'est elle doit être proportionnelle et individualisée. Alors, et quand on parle de crimes en matière sexuelle ou de violence conjugale, dans un contexte intime, les juges systématiquement vont mettre l'emphase sur ce qu'on appelle la dénonciation. On veut décourager et punir alors la dissuasion à la dénonciation. Alors, ça a été de l'incarcération. Après ça, ça va être, c'est quoi la gravité objective de la situation? Est-ce que l'individu a des conséquences un casier judiciaire, est-ce qu'il exprime des remords ou il reconnaît toujours pas son
Il a fait juste 54 jours quand même. Nous, là, de l'extérieur, on regarde ça et on dit ça, c'est une sentence bonbon. Mais je comprends qu'on n'est pas dans le secret des dieux et je pense que ni l'avocat de la défense, ni de la poursuite, c'est plein de la sentence. Là,
il doit avoir une affaire de récidive aussi.
Ben, peut-être, de risque de récidive.
Ça, c'est un bon point, Mme Thérèse, parce que le fait de ne pas avoir fait le 6 mois complet, c'est là, on tombe dans l'univers des libérations conditionnelles.
C'est un autre monde.
Et là, on peut bénéficier d'une sortie anticipée. Si, comme vous dites, madame, on ne constitue pas un risque de récidive.
Merci, maître Walid Ijazi. Toujours intéressant de t'avoir avec
Qu'est-ce
nous.
Qu'est-ce que vous faites après l'émission?
On dirait qu'il y a une passion sexuelle.
Pardon? On peut prendre un café. On va aller prendre un café.
J'aimerais beaucoup ça. Parler du travail, juste pour parler de vous.
Mais vos biscuits, etc. Merci.
Le podcast Debout les comiques.
Je sais pas par quel bout de prendre cette nouvelle-là. C'est tombé hier. C'est la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Il y a un représentant, le vice-président François Vincent, qui a fait une sortie dans les médias en disant qu'on pourrait briser les rêves de 90 000 jeunes. 90 000 jeunes de 14 ans et moins qui vont se voir interdire de travail avec la nouvelle loi qui entre en vigueur immédiatement de Jean Boulet, ministre du Travail, qui fixe l'âge minimal du travail à 14 ans et qui fixe même un nombre d'heures maximales pour les jeunes jusqu'à 17 ans. temps, là, tu as un nombre maximal d'heures à faire dans une semaine. Tu pourrais pas travailler 40 heures semaine si tu as 16 ans dans la vie, mettons. Et je trouvais que la déclaration de François
briser
Vincent...
Briser
des rêves. Je trouvais que c'était une généralisation un peu troublante quand même, parce que c'est plus nuancé que ça, le travail chez les jeunes. Moi, je dois dire, d'entrée de jeu, j'étais sûr dans la vie, moi, qu'il y avait déjà une loi qui interdisait le travail en bas de 14 ans. J'étais sûr que c'était 14 ans, moi, dans ma tête. Puis ça fait pas tant d'années que ça, dans Debout les comiques, une question qu'on avait eue à un moment donné, que non, il n'y en avait pas d'âge minimal. Puis peut-être que on était plusieurs à penser la même chose. Finalement, Jean Boulet, il a décidé de cet âge-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des chiffres qui parlent aussi. Il y a des jeunes au travail qui sont surreprésentés dans les blessures au travail. Et là, attention, je vais être plein de nuances ici. Là. Je sais aussi depuis quelque temps qu'il y a des jeunes aussi qui contribuent à l'équilibre économique familial en donnant un petit coup de main avec une petite jobine de temps en temps. Il y en a d'autres qui contribuent dans une entreprise familiale. La loi est sévère parce que s'il y a plus que 10 employés, tu pourras pas travailler dans l'entreprise, même si c'est ton père le propriétaire. S'il y a 11, 12 employés, tu pourrais pas. Moi, je trouve que ça, c'est la ligne est un peu sévère à mon sens. On peut être plein de nuances dans ça, mais quand lui prend la parole pour défendre les entreprises indépendantes en se disant ce qu'on sent en fait en arrière, c'est qu'il veut juste protéger une force de travail qui coûte pas cher, qui fait leur affaire, puis peut-être que le modèle d'affaires est à revoir si tu as absolument besoin de 90 000 jeunes dont tu veux pas briser les rêves pour que ton entreprise reste en vie.
Il est un peu intéressé, c'est ça.
Il est une petite affaire intéressée.
Ouais.
Et l'autre bout de l'affaire, quand il dit ça va créer des problèmes, les jeunes qui vont passer l'été à jouer au Nintendo pendant que les chums vont travailler parce que ta fête, tu vas avoir 15 ans au mois de septembre, on va s'arrêter avec nos enfants. Inquiétez-vous pas.
Ça.
Je l'ai fait pendant 13 ans. Je suis encore capable de le faire un autre été de temps, François. On va bien s'en occuper de le temps passé avec nos enfants. C'est pas ton problème à toi. Inquiète-toi pas de ça. Puis comment on va gérer le travail aussi dans notre famille. Mais je comprends qu'il y a une job à faire. Je trouvais juste que c'était all over the place. Il généralisait avec 90 000 rêves. Non, c'est pas 90 000 rêves. Puis je vais être bien entendu, là, il y a de la nuance. Puis je suis pas en train de dire que le travail est pas formateur. J'ai grandi, moi, sur une ferme. Puis j'ai eu des tâches très jeunes. Puis j'ai travaillé comme un homme. À 14 ans, je travaillais comme un homme. Mais si tu me dis, par exemple, ton gars, tu voudrais-tu, il y a 14 ans, Zach, qu'il aille travailler l'été prochain comme un homme? Ma réponse, bien claire, non. Vraiment pas. Moi, je l'ai fait. Ça a été formateur pour moi, c'était un autre contexte, c'était une autre époque, mais si j'avais eu le choix dans le temps de vivre comme un kid de 14 ans, est-ce que j'aurais pris ça?
T'es comique? De retour dans un instant.
Debout les comiques. 96.9, c'est quoi?
Le meilleur des comiques, sur demande. Debout.
Dans un instant, continuez de nous texter vos jokes sur le 96.9. 96.9. Sinon, Billy, tu vas nous parler d'intelligence artificielle.
Ben oui, t'as dit qu'on parlait à Walid tantôt, avocat criminaliste. On n'aura pas besoin de Walid, Martin.
Vrai?
Non, c'est ce sera ChatGPT. On va pouvoir utiliser ça parce que c'est un avocat sur Twitter qui a dit « Hey, je vais peut-être créer un peu de chaos dans ma profession, mais je tiens à dire que j'utilise... » ChatGPT. Donc, lui, il est avocat. Il s'appelle Éric Pacifici. Et il donne, par exemple, l'exemple d'un
client. C'est pas au Québec.
C'est aux États-Unis.
OK, c'est ça.
Mais lui, ce qu'il dit, c'est, mettons, j'ai un cas où la personne a un entrepôt, a fait de l'entreposage, et il y a un client qui paye pas et qui veut ravoir ses biens, même s'il a pas payé. Est-ce que j'ai le droit de retenir ses biens en otage pour qu'il puisse me payer? Fait qu'il dit, moi, au lieu d'aller fouiller dans mes livres, ce que je fais, c'est que, oui, tu peux le googler, puis tu vas avoir une réponse à peu près ou un article qui ressemble, mais tu peux aller sur ChatGPT, puis donner toutes tes informations. Et c'est important de le faire dans l'ordre, c'est-à-dire, mettons, donner la cause, les faits, et donner aussi, mettons, t'es dans quel endroit pour savoir les règlements, la réglementation, ça va être à quel endroit, et l'objectif que tu veux avoir. Est-ce que, c'est la question, c'est est-ce que je peux garder mes biens ou pas? Et ce qu'on réalise, c'est que ChatGPT va te donner vraiment toutes les informations
la
précises.
La cause comme telle, les tenants et aboutissants de toutes, mais
et après ça, il dit, ben, mettons, il dit, t'as à écrire une lettre pour envoyé à cette personne-là, mais tu peux aussi demander à ChatGPT de t'écrire cette fameuse lettre-là pour envoyer. Donc, il dit, t'as même pas besoin de passer par un avocat pour
mais
le faire.
Donc.
Il dit, bien sûr, il dit, moi, je suis un avocat, donc je le sais où sont les failles présentement. Le système, il dit, je conseille à personne de le faire. Tu sais, monsieur, madame, tout le monde, de le faire sans consulter un avocat qui va corriger les...
C'est
mais il dit, dans pas long, on n'aura même plus besoin de demander à un
c'est
avocat.
Sûr,
puis on va pouvoir passer directement par cette fonction-là. Il est un peu entre deux chaises parce qu'il dit, en vous disant ça, je nuis un peu à mon travail, mais en même temps, il faut que je vous avoue que moi, je trouve ça utile.
Mais il y a un travail il y a un travail clérical, là. J'ai pas le mot français de clerk, mettons, là, de tout ce qui est écrit, justement, dans le droit, il y en a beaucoup de ça, dans le respect des lois. Je pense au municipal, au provincial, il y a beaucoup de paliers de gouvernement. Dans la gouvernance comme telle, moi, je pense que ça va pouvoir aider vraiment parce que il y a des délais aussi qui tu sais, il y a un jeu de, mais pour vrai, c'est sûr que ça va remplacer des jobs éventuellement.
Parce
ça, c'est certain.
Et dans le fond, ce que fait l'intelligence artificielle, c'est qu'elle va chercher toutes les lois possibles avec le point précis.
Exactement.
Elle donne. Mais là, faites pas ça là. Mais là, non, c'est pas à jour, là. Mais éventuellement, ça va arriver, là.
Avec l'amélioration exponentielle de l'intelligence artificielle, ça risque d'arriver plus tôt que tard. Merci, mon cher Billy. Toujours très intéressant.
J'ai rien compris.
Vous avez rien compris, Mme Thérèse?
L'intelligence artificielle.
Vous allez comprendre dans un instant parce qu'on va raconter des jokes. Vous savez, des bonnes blagues. Une fois, c'est un newfie, mettons, des affaires de même, là. On va compter des jokes. Vous allez participer avec nous, d'ailleurs.
Oui, j'en ai choisi.
Vous en avez aussi? Bon, ben, parfait. Madame Thérèse, qui est avec nous toute l'émission aujourd'hui, c'est la bucket list de Tammy. Tammy Verge a pris congé. Elle s'est fait remplacer par Madame Thérèse toute l'émission aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que vous entendez une voix féminine que vous n'êtes pas habitué, mais on est très content de l'avoir avec nous. Parce qu'on y a parlé souvent au téléphone, mais fallait toujours raccrocher.
Oui.
On n'était pas pires amis.
Ouais.
Mais fallait qu'on raccroche.
Mais là, on est vrais amis.
Ben, là, on est vrais amis, mais il faut quand même qu'on aille en pause, Madame Thérèse.
Ah, c'est... Oui. OK. OK, mais on va revenir.
On va revenir, par exemple.
Le meilleur des comiques. Sur demande.
Et attention à 6h40, mesdames et messieurs, en compagnie de Mme Thérèse, c'est le moment de Debout les cartes. Et c'est elle qui va commencer à parler de ça. Oui.
C'est Danny Le Temps de la Vigne.
Oui, un fidèle.
Alors, un humour s'en va comme ça. Un homme va chez son médecin et il demande combien de temps il me reste à vivre, docteur.
Oui.
Alors, le docteur répond 5. Il dit 5 quoi? Le docteur répond 4. 3.
C'est un peu stressant.
C'est drôle, hein?
C'est très drôle.
Veux-tu la garder pour la raconter?
Ben oui, à votre sens. Ben absolument, vos amis. On continue avec Kevin Albert. Kevin Albert, c'est une histoire qui se passe dans la très haute société. C'est une femme riche qui rentre chez elle et elle dit à son mari, il faut absolument qu'on renvoie le chauffeur. Il a failli me tuer. Et là, son mari dit, on saute pas trop vite aux conclusions. Il a droit à une deuxième chance.
Moi, la blague provient de Maxime de la Rive-Sud. C'est l'histoire d'un petit garçon et d'une petite fille qui sont dans une salle d'attente pour aller voir un médecin. Le petit garçon, il regarde la petite fille parce qu'elle pleure. Puis il dit, ben, pourquoi est-ce que tu pleures? La petite fille dit, bien, je viens pour un test de sang puis j'ai entendu dire qu'il coupe le bout du doigt pour ça.
Oh.
Fait que le petit gars, il regarde, est-ce que t'es sûr? Et il se met à pleurer. Fait la petite fille, elle dit, ben là, toi, pourquoi est-ce que tu pleures maintenant? Elle dit, ben moi, je viens pour un test d'urine.
Il va se faire couper le bout.
Ben non!
C'est ça,
Mme
Thérèse.
Puis c'est pas une circoncision, là.
Non.
OK, c'est l'histoire, c'est un gag de Patrick Chagnon.
Ah oui! Ah.
Il dit, c'est une dame qui roule vite en dessous d'un pont, tu sais, puis à droite.
À droite.
Non, elle a pas le droit.
Elle a pas le droit.
Elle a pas le droit parce qu'elle se fait pogner par un radar photo.
Ah non!
Par un radar, un policier qui était là. Et là, le policier demande à la dame, il dit, permis de conduire, preuve d'assurance. Puis il demande aussi pourquoi vous conduisez vite de même. Et là, la dame, elle répond, ben, il faut vraiment que je me rende au travail, là, c'est une urgence. Le policier demande, il dit, OK, qu'est-ce que vous faites comme travail? Elle dit, je suis élargisseuse de rectum. Là, il dit, quoi? Élargisseuse de rectum? Elle dit, ben oui. Ben, le policier dit, ça consiste en quoi? Elle dit, les gens viennent voir à mon cabinet, puis ils demandent de se faire élargir le rectum. Puis là, le policier dit, OK, oui, mais vous procédez comment, là? Et on dirait qu'il y a des doutes, tu sais, le policier. Elle dit, ben, en premier, je mets un doigt. Puis là, je tourne un peu pour dilater. Après ça, je mets deux doigts. Après ça, j'y vais avec le poing. Après ça, j'y vais avec le bras. Puis j'arrive jusqu'à 1,80 m. Puis là, le policier, il dit, quoi?
Tab!
Qu'est-ce qu'on peut faire avec un trou de cul d'un mètre 80? Ben, vous donnez un radar, puis le mettez en dessous d'un pont.
Mon doux Seigneur, ça c'est drôle.
Je pense
ça.
Qu'il y a une étiquette par exemple.
Ça du bien, ça du bon. Hey, mais c'est donc bien drôle cette affaire-là,
ben oui,
de votre affaire. Ça met du bonheur dans le jour. C'est mon tour.
Ah non, c'est votre tour, Madame Thérèse.
Oui.
Est-ce que vous avez une petite rapide?
C'est ça, on m'a dit d'en préparer. Oui. C'est que Tammy Verge le fait habituellement. Fait qu'on s'attendait à ce que vous le fassiez, mais si vous ne l'avez pas, c'est correct.
Oh, j'en ai
Thérèse.
Une, puis j'en ai plein d'autres si vous voulez.
Non, mais juste une, ça va être correct.
C'est mon moment préféré de votre émission. C'est Jonathan Larrivé. Alors, il raconte qu'est-ce qui est noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc.
Je ne sais pas.
Une religieuse qui déboule les escaliers.
Religieuse! Vous avez été en couvent, vous, Mme Thérèse?
Oui, j'étais en couvent plus jeune, oui, dans le coin de Montmagny, moi.
Fait que cette joke-là, vous l'avez déjà vue live, là?
Ah, on se la racontait. J'avais même pas encore mes menstruations. On riait,
C'est beaucoup de détails.
C'est drôle, ça.
Vraiment beaucoup de détails.
Ben, c'est fun de rire des religieuses, des policiers, des... C'est comme ça, les jokes, hein?
Oui.
Oui. Souvent, on rit des choses qu'on peut pas rire dans la vraie vie.
Pouvoir établi.
Avez-vous fait l'école de l'humour, Mme Thérèse? Que vous connaissez quand même beaucoup de notions sur l'humour. Même depuis le début de l'émotion.
C'est gentil.
Merci, ma chère.
Pour plus de tes comiques, écoute 96.9 C'est quoi du lundi au vendredi dès 5h25 ou rends-toi sur c'estquoi.com.
C'est 23.